Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Cette semaine, en cette période de fin d'année, que nous vous souhaitons très belle, nous n'avons pas d'annonce particulière à vous communiquer. Je suis sûre que dès la semaine prochaine, l'actualité sociale et culturelle reprendra ses droits. Mais pour aujourd'hui, sans attendre, je vous propose une première pause musicale. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre et aujourd'hui je vous invite à découvrir As Above So Below. C'est un groupe portugais de post-metal et qui fait la part belle aux mélodies. Le morceau qui suit s'intitule Elements of Creation. C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur quelques actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, une initiative de solidarité avec les communistes polonais. C'est une actualité qui n'a pas été diffusée largement, mais qui pourtant relève de la liberté d'expression. En Pologne, le parti Droit et Justice, le PIS, est revenu aux affaires à la direction de l'État polonais et menace de 3 ans de prison trois militants du Parti communiste polonais, KPP, à l'issue d'un procès qui devait s'ouvrir fin novembre en Haute-Silésie. Leur crime, avoir professé des idées progressistes dans leur journal Brzak. Cette menace s'inscrit dans le contexte plus général d'une campagne dite de décommunisation. C'est tout cela qui a déclenché l'indignation de l'association Les Ennemis d'Edward Gierek. Micro-Rebelle est allé à leur rencontre, c'est un reportage de Luc.
Alors que devait s'ouvrir en Pologne un procès vide d'accusations fondées contre trois militants communistes qui encourent une peine de prison pour avoir promulgué des idées dites progressistes, nous revenons avec Jacques Kmesiak de l'association Les Amis d'Edward Gierek sur la situation politique en Pologne et les récentes atteintes à la liberté d'expression qui y sont perpétrées.
Jacques Kmesiak de l'association des Amis d'Edward Gierek. L'association est née il y a une dizaine d'années pour mettre en lumière tout le combat des militants syndicalistes, en fait de l'aile gauche de l'immigration polonaise dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle porte le nom d'Edward Gierek, qui était un militant syndicaliste, membre du Parti communiste et de la CGT unitaire à l'époque, dans les années 1930. Il habitait le Forêt, il a travaillé 3 ans pour le compte de la Société des Mines de l'Escarpelle. Et suite à un mouvement de grève en 1934, au fond du puits du numéro 10 de l'Escarpelle, des dizaines de mineurs polonais ont été expulsés vers la Pologne, dont Edward Gierek. Et alors, la particularité d'Edward Gierek, c'est qu'il va partir en Pologne, il va revenir en Belgique et en 1948, il repart là définitivement en Pologne. Il va gravir les échelons de l'appareil politique polonais pour devenir le responsable du Parti ouvrier unifié polonais au pouvoir en Pologne à partir de 1970 et jusqu'en 1980.
Vous donniez hier une conférence de presse au sujet de procès qui ont pour but de condamner des partisans communistes en Pologne. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous faire un bref topo de la situation politique générale en Pologne et de l'importance prise ces derniers temps par l'extrême droite dans ce pays?
Oui, donc la droite réactionnaire à travers le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński est revenue aux affaires à l'automne 2015. Depuis, il mène une vaste campagne anti-communiste qui a des effets concrets, puisqu'en mai 2016, trois militants du Parti communiste polonais ont été condamnés pour les écrits, pour des écrits dans leur publication, dans l'organe du Parti communiste polonais, Bjonsk, qui est la revue du Parti communiste polonais. Ils ont été condamnés à des peines de travaux forcés et à de fortes amendes suite à un jugement d'un tribunal sans procès. Donc ils ont évidemment fait appel de cette décision. Et fin novembre, le procès devait s'ouvrir dans une ville de Haute-Silésie, des environs de Katowice, et il a finalement été reporté au 23 janvier prochain. Donc les Amis d'Edward Gierek ont initié une campagne de sensibilisation, de solidarité avec les camarades polonais qui risquent 2 ans de prison pour avoir simplement propagé des idées progressistes et pour avoir dit du bien de la Pologne populaire dans leur journal.
Alors pour ceux qui sont un peu étrangers à cette situation, petit point sur les prises de pouvoir par les dirigeants de Droit et Justice. Et également, quel genre d'atteinte récente à la liberté d'expression ont pu être faites?
Disons que les principales... Bon, on parle beaucoup ici dans les médias occidentaux de la réforme du Conseil de la magistrature, en fait, de la Cour suprême, de réformes judiciaires. On parle aussi d'attaques par rapport à la liberté de la presse. Il y a deux visions. Il y a une approche européiste de ce pouvoir réactionnaire. Je dis bien réactionnaire, pas pas conservateur, hein, c'est un pouvoir réactionnaire, hein, qui s'appuie sur l'Église catholique et qui veut mettre en avant les valeurs nationales. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'association des Amis d'Édouard Guirec, c'est vraiment la campagne anticommuniste qui est orchestrée. Alors qu'il y a différentes facettes, hein, c'est les attaques contre les membres du Parti communiste, hein, c'est vraiment une volonté de restreindre la liberté d'expression. Et ça pourrait mener à la dissolution, parce que ça, c'est le projet du gouvernement, à la dissolution du Parti communiste polonais, qui est pourtant légalement reconnu. Alors, il y a différentes facettes. Une des autres facettes, comment dire, le gouvernement envisage d'expurger de l'espace public toute référence à la Pologne populaire, c'est-à-dire la Pologne de la libération, qui a résolument tourné le dos à celle des Pilsudski, à celle des colonels, à la Pologne féodale de l'avant-guerre, de l'avant-seconde guerre mondiale, et qui a jeté les bases du modernisme en Pologne, hein, à la libération. Donc ils sont entrés, enfin ils ont mis en place une politique de débaptisation des noms de rues, de places, d'équipements municipaux, d'équipements sportifs qui portent justement les noms de militants, syndicalistes, politiques qui ont non seulement un rapport avec la Pologne populaire, mais également un rapport avec la résistance, un rapport avec les brigades internationales en Espagne, un rapport avec la Commune de Paris et même avec la Révolution française. Donc il y a vraiment une volonté d'expérimenter purger de l'espace public toute référence aux idéaux progressistes. Ça, c'est une deuxième facette de la politique anticommuniste du gouvernement polonais. La troisième facette, ils sont entrés dans une vaste entreprise de démolition de tous les monuments qui rappellent le sacrifice des soldats de l'armée rouge qui ont libéré la Pologne en 1944-1945. Il ne faut pas oublier que 600 000 soldats de l'armée rouge ont perdu la vie pour la libération de la Pologne à cette époque-là. Donc, le gouvernement polonais est entré dans une vaste campagne de démolition de tous ces monuments et stèles qui rappellent cette heure, enfin cette page sombre de l'histoire de la Pologne.
À la fois une purge culturelle et une chasse aux sorcières politiques, si on peut dire. Comment s'organise la résistance en Pologne? En premier lieu, et en second lieu, est-ce qu'il y a eu, vis-à-vis de ça, des condamnations internationales, et est-ce qu'elles ont eu un effet quelconque?
Le procès de nos camarades du Parti communiste polonais devait s'ouvrir le 27 novembre. Alors il s'est ouvert. Au bout de 40 minutes, le juge a décidé de reporter le procès au 23 janvier, sous prétexte que l'accusation n'avait pas assez d'éléments à charge. C'est-à-dire que le dossier est complètement vide. C'est vrai que la constitution polonaise interdit de faire la propagation des méthodes fascistes et communistes, mais le souci c'est qu'on n'a jamais, aucun juriste n'a défini le terme de méthode. Et donc légalement la méthode on ne sait pas ce que c'est. Par contre les idéaux communistes peuvent être propagés selon la loi polonaise. Donc le dossier est complètement vide, mais il y a une volonté vraiment de faire pression pour obtenir la condamnation de ces militants. C'est un peu une politique de la terreur qui est mise en place par le gouvernement polonais. Alors évidemment il y a des réactions. Le jour du procès, il y a eu des manifestations devant diverses ambassades à Madrid, à Vienne, à Berlin. Donc il y a des manifestations de solidarité qui se sont exprimées. Pour notre part, les Amis d'Édouard Guirec, on a lancé une pétition qui s'appelle, enfin qui a, c'est dénommé Appel des 118, c'est les 118 premiers signataires. Donc une pétition qui a été adressée au consul général de Pologne à Lille, qui s'appelle Monsieur Henri Dudzinski, ancien journaliste à La Voix du Nord de Lens, originaire de Liévin. Et la pétition a également été adressée à l'ambassade de Pologne à Paris. Donc hier, cette action des Amis d'Édouard Guirec, évidemment soutenue ici dans le secteur par la Fédération du Pas-de-Calais du Parti communiste, par le pôle de Renaissance de communiste en France, et également par la section de l'antenne de Lens de la France insoumise. Le procès ayant lieu le 23 janvier, on envisage volontiers une manifestation, un rassemblement à Lens à la mi-janvier, à une date qui n'a pas encore été été déterminé, mais ça sera quelques jours avant le procès. Et nous allons solliciter aussi M. Henri Dudzinski, le consul de Pologne, pour avoir une rencontre dans ses locaux de l'Université de Lens.
Est-ce qu'il y a eu des condamnations officielles, je veux dire, d'autres gouvernements ?
Non, les gouvernements condamnent pas, les gouvernements, les États capitalistes ne condamnent pas lorsque ce sont les communistes qui sont pourchassés. Lorsqu'il y a eu un rapport de force avec Solidarité qui souhaitait restaurer Lech Walesa, qui souhaitait restaurer le capitalisme en Pologne, là évidemment il y avait un soutien important hein, des États capitalistes en Europe notamment. Ici la répression que subissent nos camarades polonais ne fait également l'objet d'un ostracisme médiatique au niveau de la presse nationale. On n'entend pas parler de cette situation et c'est bien dommage. Mais bon, ça révèle la vraie nature des grands médias de France et d'Occident.
Est-ce que vous avez une idée des perspectives que ça va amener, ce qu'on peut présager de ce procès, du déroulement? Est-ce que ce sera globalement un simulacre de justice et une condamnation sans appel, ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir?
La coquille est vide. Le Parti communiste est légal. Professer des idéaux marxistes-léninistes en Pologne reste légal. Donc, mais que dire? Ils sont bien en train de débaptiser les noms de rue, de démolir les monuments. Bon, la perspective, je crois, au-delà de ce procès, c'est quand même l'interdiction du Parti communiste polonais, qui est une force une force petite, mais une force réelle de résistance à la restauration capitaliste en Pologne.
Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de l'association, où vous retrouvez, comment vous soutenir vous, comment soutenir les personnes qui attendent leur procès?
Donc l'association des Amis d'Edouard Guirec est basée à Rebreuve-Ranchicourt, un village des environs de Bruay-la-Buissière. Pour la contacter, ben, il y a un mail, je vais peut-être le signaler ici. Donc c'est assoamiguirec@aol.com. Donc nous allons développer, nous allons continuer la mobilisation. J'ai laissé le mail parce que la pétition, il y a l'appel des 118, donc c'est les 118 premiers signataires. Mais la pétition évidemment est complétée par de nouvelles signatures chaque jour des camarades. Enfin, des simples citoyens aussi s'associent à cette démarche. Parmi les signataires, on a le sénateur communiste Dominique Watrin, on a le maire de Marle-les-Mines Marcel Coffre, l'ancien conseiller général André Delcourt, on a le secrétaire national du PRCF Georges Gastaud, philosophe lensois, on a le secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais du Parti communiste Hervé Poli. Et voilà, donc on continue la mobilisation en espérant faire de du rassemblement de Lens à la mi-janvier un temps fort de celle-ci.
Nous transmettrons le moment venu les dates pour cette manifestation. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier. Retrouvez toutes nos émissions et reportages sur microrebelle.fr.
Place maintenant à une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Je vous propose Waiting for You de l'américaine Michelle Samuel, extrait de son album Insight and Turnpikes. Une voix cristalline, un goût prononcé pour les gimmicks qui font mouche et un sens aigu des mélodies accrocheuses. L'américaine Michelle Samuel a dans son attirail tout le nécessaire pour faire de bonnes chansons pop qu'elle parvient à bonifier avec une authenticité et une sincérité qui font toute la différence. Deux titres entraînant en parenthèses intimistes, Insight and Turnpikes est un album à mettre entre toutes les oreilles curieuses.
Stretching miles and miles ahead, but when I look down, my eyes follow you. Can you feel my thoughts beside your head when you're walking straight ahead? You're not alone.
from beyond the sunrise. I'll be waiting for you. I see only you. When you close your eyes to get some rest, do you know that I'm still here in this beyondness from beyond the sunrise? I'll be waiting.
Poursuivons notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Nous revenons de manière indirecte sur la catastrophe minière du 27 décembre 1974 à Liévin, qui a vu 42 mineurs trouver la mort. Chaque année, le 27 décembre, cette catastrophe donne lieu à deux commémorations. La première est celle que l'on pourrait appeler la commémoration officielle. La seconde, moins médiatisée, rassemble celles et ceux qui estiment que cette catastrophe n'est pas le fruit de la fatalité, mais que les houillères en sont les premières responsables, et qu'elles ont bel et bien envoyé ces mineurs à la mort. Cette catastrophe constitue la trame de fond du dernier livre de Sorge Chalandon, « Le jour d'avant ». Sorge Chalandon était présent à la médiathèque de Grenay, en présence notamment de veuves de mineurs tués ce 27 décembre 1974. Micro-rebelle y était également. C'est un reportage de Luc.
D'accord. Je suis bien contente, au contraire, que ce monsieur l'ait fait, qu'il ait fait ce livre-là sur les mineurs, parce que ça, on voit que les répercussions qu'ils ont eues, cette catastrophe. Il y en a eu tout partout des catastrophes des mines. Mais personne n'en parle. Ça croit qu'on est des rebuts de la société dans le coin. C'est un vrai crime qui s'est passé contre eux. Pourquoi personne n'a été voir ce qui se passait au lieu de remettre en route les mineurs, descendre avant de vérifier si l'aération avait été faite. C'est un crime contre l'humanité. Alors, ils sont dans notre cœur et dans notre mémoire et on ne les oubliera jamais.
Le 27 décembre 1974, dans le quartier de Saint-Amé à Liévin, un coup de grisou et de poussière conjugué dévaste la galerie des six sillons dans la fosse 3 de la compagnie minière de Lens et enlève la vie de 42 mineurs. C'est de cette catastrophe, la dernière grande catastrophe au crépuscule de l'industrie minière, que s'inspire Sorge Chalandon dans son livre paru cette année, Le jour d'avant. Ce vendredi 15 décembre, à la médiathèque estaminée de Grenay, a eu lieu une rencontre avec l'auteur. Il y avait entre autres des veuves et orphelins de victimes de l'accident, d'anciens mineurs, des associations, une émotion toujours vive, de la colère palpable bien qu'un peu éteinte, et un coup à boire à la santé des mineurs. Avant d'entrer dans le vif du roman, parole à Jacques Lacaze du collectif Liévin 1974.
En 1974, j'étais membre d'un groupe politique qui s'appelait le Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste. Juste après la catastrophe, on est arrivé à Liévin, on est venu sur Liévin et on a lancé tout de suite ce qu'on appelait une commission populaire d'enquête. C'est-à-dire qu'on a pris contact avec différentes personnes comme ça qu'on voyait devant la fosse où avait eu la catastrophe. Et on les a invités à une réunion qui s'est passée dans un bistrot qui était à quelques dizaines de mètres de la fosse. Et on les a fait témoigner, on a enregistré ces témoignages. Et puis on les a revus et on a créé donc une sorte d'association populaire pour se battre pour la vérité. C'est-à-dire qu'à l'époque quand même, ce qui s'était passé vraiment, on ne le savait pas. Quand on a posé des questions, etc. On a appris que les Tafanel, qui étaient des dispositifs pour arrêter un coup de grisou, et comme ils n'étaient pas entretenus, tous ces Tafanel étaient pleins de poussière. Ce sont les premiers témoignages qu'on a eus tout de suite. Et non seulement ça n'a pas arrêté le coup de grisou, mais ça l'a accéléré sa propagation et ça a aggravé le nombre de morts. Puis il y a eu des témoignages de mineurs. Des témoignages de mineurs de la fosse 3, de femmes de mineurs aussi qui expliquaient ce qui s'est passé dans les corons. Notre travail a consisté d'une part à enquêter au maximum et d'autre part à mobiliser, à expliquer, à mobiliser, etc. Et tout ça a débouché sur ce qu'on appelait un tribunal populaire.
Alors aujourd'hui, le collectif a pour principal objectif de faire survivre la mémoire de cette catastrophe. Et donc vous avez mis en place un mémorial et il y a une petite bataille qui vous oppose à l'administration officielle.
Le mémorial qui a été fait un an après la catastrophe, qui a été inauguré d'ailleurs par Chirac, dans ce monument, il y avait écrit « Telle ville, Grenay, tant de morts, Liévin, tant de morts, Mazingarbe, tant de morts, etc. » On a été révoltés par ça, quoi. Ça voulait dire qu'un mineur, c'était un pion, quoi. C'est comme à la guerre de 14, mais les morts, c'était des hommes, c'était des pères de famille, c'était etc., etc. Ils disparaissaient complètement. Alors c'est pour ça qu'on a fait un deuxième mémorial, beaucoup plus modeste, qui avait pour titre aux 42 mineurs envoyés à la mort le 27 décembre 1974, et on avait inscrit tous les noms. Alors du coup, les autorités, elles ont inscrit au dos du mémorial officiel, elles ont inscrit ces noms un an après, quoi, ça a été assez marrant. On fait quand même une cérémonie tous les ans, et donc on peut reprendre cette célébration, non pas sur le thème de la fatalité, de mineurs héros, et le mineur est présenté comme un héros, comme ceux des guerres, qu'il était courageux, c'est absolument indiscutable. Bon, mais enfin, en plus, il n'avait pas le choix. Comme tous les gens qui font un boulot difficile, ils le font non pas par passion pour le boulot, mais sûrement plutôt essentiellement pour gagner leur vie, quoi. On continue à célébrer l'anniversaire de la catastrophe tous les ans, et cette année encore, on se prépare à le faire sur un thème où on dénonce, on dit il n'y a pas de fatalité, il y a des responsables, et les responsables, c'est le capitalisme. Si on a fait reprendre, les mineurs ont repris le travail le 27 décembre, ça veut dire deux jours après Noël. Bon, on leur a même pas laissé fêter Noël correctement. Si on leur fait reprendre le travail comme ça, c'est que il fallait que le charbon monte à ce moment-là.
Question à Sorge Chalandon, écrivain, journaliste, auteur du livre « Le jour d'avant ». Vous avez dit dans cette conférence que la catastrophe du Lévin avait été votre première colère d'homme. Moi, ce que je me demande, c'est quel sens on peut donner à la colère, et aussi, mais est-ce que ce livre, de revenir tant d'années après, est-ce que vous concevez ça comme une vengeance ?
Pas du tout. En fait, la colère a été ce que j'ai ressenti il y a 43 ans à la catastrophe de Liévin, mais la colère n'est pas le moteur de ce livre. Le moteur de ce livre, c'est plutôt la fraternité, la dignité, d'autres choses. La colère existe, parce que sans colère, je pense que je n'aurais pas écrit ce livre. Sans colère, je ne serais pas arrivé jusqu'à 65 ans avec l'idée que ce qui s'est passé était profondément injuste. Et ça marque une vie d'homme. En même temps, ce livre n'est pas une vengeance du tout. Ce livre est pour moi une façon de partager une histoire avec des gens qui n'en ont pas du tout, qui ne savaient même pas que cette histoire existait. Donc moi, ce que j'aime, et pourquoi j'ai écrit ce livre aussi, c'était pour que des gens qui ne savaient pas qui étaient les mineurs, ce qui s'est passé à Liévin, qui n'ont jamais entendu parler du 27 décembre et des 42, que ces gens-là, brusquement, à l'occasion d'un roman, ça aurait pu être une chanson, ça aurait pu être une pièce de théâtre, ça aurait pu être un film, mais qu'à cette occasion-là, brusquement, ils se retrouvent en face de quelque chose qu'ils ont soit oublié, soit occulté. Donc je ne me venge en rien de personne, mais je dis aux gens, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là et je vais vous raconter d'où vient en partie l'homme que je suis.
La mine, elle est présentée un peu comme un monstre. Et il y a une dissociation entre la mine et les mineurs que je trouve assez importante et qui tend à montrer qu'il n'y a pas vraiment de fatalité entre l'union morbide, entre un peuple et une terre noire et assassine. Et donc que les catastrophes minières sont davantage le fait d'une réalité socio-historique plutôt que d'un simple coup de grisou.
Le grisou seul n'est pas l'assassin. C'est-à-dire que nous savons que le grisou avait un complice. Le complice, c'était les charbonnages, qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour dégrisouter, notamment ce jour-là, dans le quartier des Sicillons. Mais après, si la question est, est-ce que la mine est un monstre ? Oui, c'est un monstre, mais en même temps, c'est un monstre qui dévore les hommes et qui les nourrit. Donc c'est une complexité folle. C'est-à-dire que moi ce qui me touche depuis que je travaille sur les mineurs et sur la mine, c'est la dureté du travail et la fierté qu'ils en retirent. Donc il y a un côté haine-amour qui est assez bouleversant, qui va de l'un à l'autre, qui est indicible, qui ne s'explique pas. C'est-à-dire que lorsque le mineur est au fond, il peste, c'est dur, il sue, il est en colère, il a envie de tout laisser tomber. Et quand l'armée noire sort des grilles de la mine, il y a une fierté d'être ensemble, une fierté de faire ce métier-là, une fierté d'en parler aux autres. Je parle au passé, évidemment. Et donc, ce qui est très particulier, c'est la certitude que chaque fois qu'on descend, on descend dans le corps, dans le ventre et dans le cœur de la bête. Et en même temps, on la nourrit. Et en même temps, elle se nourrit de nous. Donc, il y a une sorte de jeu mortel entre la terre à qui il faut faire rendre gorge et la terre qui fait rendre gorge aux hommes aussi. Ce qui me bouleverse, c'est qu'à chaque fois, la mine procure la même chose à tous ceux qui en parlent et tous ceux qui l'ont vécu et tous ceux qui en ont vécu, justement. C'est une sorte de monstre qu'il faut vaincre. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Les mineurs n'aiment pas la mine lorsqu'ils sont au fond. Et quand ils en parlent, ils ont de la tendresse pour elle. Alors, ce que c'est de la tendresse pour la mine elle-même, c'est de la tendresse pour le travail qu'elle réclame, c'est de la tendresse pour... C'est comme si la mine, c'est comme un loup, c'est comme une louve. Elle a faim des hommes. Elle a faim des hommes, elle les dévore. Et en même temps, eux s'attachent toujours à lui prendre le lait de la louve, comme Romulus et Rémus. Sauf que là, on se trouve en face de mineurs, on se trouve en face du charbon. Tu me donnes, je te prends. Et je vais être peut-être puni pour ça un jour ou l'autre.
Dans votre livre, il y a une bataille mémorielle qui doit être menée, une bataille qui est à la fois contre le silence et l'oubli, et une bataille contre aussi une instrumentalisation de la figure du mineur qui aurait une vocation de martyr, figure sacrificielle. Et vous critiquez ça aussi à un moment donné quand vous parlez de médaille, cette simple rondelle de ferraille. Et vous dites juste après, c'est le mépris des vivants. À l'heure des commémorations annuelles autour de cette catastrophe, qu'est-ce qu'il faut penser de cette bataille ?
Alors, pour moi, la commémoration annuelle qui se tient aujourd'hui, qui s'est tenue l'année dernière, qui se tiendra l'année prochaine, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est le moyen de dire aux jeunes, de dire aux plus âgés, il s'est passé ça ce jour-là. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est la médaille. Ce que je ne supporte pas, c'est le peu de choses qui ont suivi la catastrophe. C'est-à-dire que le président de la République qui ne se déplace pas, c'est-à-dire quelques médailles beaucoup plus tard pour les survivants, c'est comme une sorte de solde de tout compte de gens qui sont responsables de ces faits-là. Là, ce n'est pas les gens responsables de ces faits-là qui commémorent. C'est les familles, c'est les parents, c'est les amis. Les responsables de ces faits-là ne commémorent pas. Et ceux qui vont être là le 27 ne sont pas ceux qui disent « Oh, gloire à toi, mineur, qui est mort pour la France ». C'est ceux qui disent « Nous, on est là pour que vous vous souveniez que ces gens-là sont morts pour la mine ». Donc, ce n'est pas pareil. D'un côté, c'est une dégueulasserie de médailles en chocolat. Et l'autre, c'est juste des familles qui se rassemblent pour rappeler que ces gens-là ont vécu, ont aimé, étaient vivants et que rien n'aurait dû les enlever à l'affection des leurs.
Mourir pour le profit de la compagnie nationale des houillères, c'est ça que tu veux, Jojo? Crever comme ton oncle à 21 ans, les lunettes coulées sur le visage et les doigts soudés par la chaleur? Suer dans les entrailles de la terre pour engraisser les planqués du carreau? Passer tes jours à percer la nuit? C'est ça ton rêve, mon fils? Et si tu tombes à la fosse, tu auras gagné quoi? Qui te rendra hommage? Deux écharpes tricolores venues d'une autre ville? Un sous-ministre arrivé de Paris? Un discours honteux sur le mauvais sort, trois fleurs payées par le syndicat et une garde d'honneur de copains qui n'oseront même pas regarder votre pauvre mère en face. Tu sais quoi, disait mon père, tu n'iras pas au charbon, tu iras au chagrin. Même si tu ne meurs pas, même si tu survis à la poussière, aux galeries mal étayées, à la berline qui déraille, à la violence du marteau-piqueur, à la passerelle glacée quand tu reviens au jour, même si tu prends ta retraite sur tes deux jambes, tu ramèneras cette saloperie de charbon avec toi. Tu auras laissé du cœur au fond, tu seras silicosé, Joseph. Tes poumons seront bons à jeter dans la cuisinière pour allumer le feu. Tu seras empoisonné, tu seras à moitié sourd, à moitié mort. Comme les cousins de maman, comme les vieux qui se traînent à l'ombre des terris, en crachant la mine qui les dévore. C'était pour terminer un extrait de l'œuvre de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, paru chez Grasset cette année. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle et Radio PFM. Retrouvez toutes nos chroniques et reportages sur microrebelle.fr, web radio du bassin minier.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Concernant les reportages que vous venez d'écouter, je vous rappelle qu'ils sont disponibles en podcast ou en téléchargement sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. De même, n'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des reportages à réaliser ou pour vous investir vous-même dans la construction d'un reportage. Notre équipe saura vous accompagner et vous aider. Pour nous contacter, le plus simple reste le courrier électronique à l'adresse contact@micro-rebelle.fr. Nous allons maintenant terminer notre émission par de la musique libre avec Roberto Daglio. C'est du jazz toujours enjoué et funk. Roberto Daglio nous propose un album en forme de compilation. Il s'est entouré d'un collectif d'amis jazzmen d'où se dégage une belle énergie. Je vous laisse donc sans attendre apprécier ces morceaux. Et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.
Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.